10 minutes avec.
Radio Grenouille, 10 minutes avec.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec.
10 minutes avec Marc Gagnelsi, avocat. Vous participez aux rencontres nationales de l'habitat participatif. L'habitat participatif, c'est un habitat conçu, créé, géré collectivement par les habitants. Comment vous êtes arrivé, vous, vers l'habitat participatif ?
Alors, effectivement, moi, je suis arrivé déjà par... en tant qu'avocat à Paris, je traite de dossiers d'immobilier assez classiques, je dirais, dans le domaine de soit de la propriété, soit, de la location classique. Mais effectivement, il y a un tiers secteur, on peut dire aussi, de l'habitat, qui est l'habitat participatif. Et pourquoi j'y suis venu ? Parce que je défends aussi, à côté de mon activité classique, beaucoup de collectifs d'artistes sur Paris. Et à un moment donné, s'est posé la problématique, puisqu'ils sont dans des bâtiments qui sont conventionnés par les collectivités territoriales, pour la plupart, une volonté d'avoir sur un lieu de vie, un lieu unique, à la fois de l'habitation, à la fois des communs, c'est-à-dire des communs pour pouvoir faire des activités, et la volonté de vouloir construire ensemble quelque chose. Donc j'ai une problématique qui s'est posée parmi mes clients, qui est de vouloir aller vers l'habitat participatif. En tout cas, ils se posent des questions et ils souhaitent avoir des réponses.
L'une des difficultés parfois, à chaque fois, quand on monte un projet d'habitat participatif, c'est le choix des statuts. Il y en a deux.
Alors, en fait, la loi Allure, en fait, qui a été votée, pose
en 2014,
24 mars 2014, pose deux types de statuts aujourd'hui. Elle offre un cadre juridique s'il n'y avait pas avant 2014. C'est les coopératives d'habitants et les sociétés d'autopromotion, en fait. Mais il faut savoir qu'avant cette loi Allure qui met en place un cadre, il y avait plein d'outils juridiques qui existaient pour permettre aux habitants, en fait, de se constituer en projet et sous des statuts divers. Alors, il y avait des statuts de type S3C, des sociétés de construction vente. Il y avait des statuts de SCIA avec attribution. Il y avait des statuts d'associations, des associations libres. Enfin, en fonction des projets, il y avait différentes possibilités juridiques qui existaient. Donc, juste un point essentiel, c'est que la loi Allure n'a pas soustrait tous ces autres montages.
Qui existent toujours un choix pour les groupes d'habitants.
Absolument, ils existent toujours. Donc la loi ne soustrait pas, en fait, les autres montages, elle en ajoute deux autres. La problématique, c'est que pour la coopérative d'habitants, où effectivement on n'est pas propriétaire, on rentre, on prend des parts et on peut en ressortir, ou la société d'autopromotion, où là effectivement il y a plus une notion de propriété, on n'a pas encore tous les décrets. Si bien qu'on ne peut pas encore jauger et avoir le retour d'expérience ou de comparer réellement entre, je dirais, les modèles classiques qui étaient utilisés et les modèles nouveaux qui sont en cours. Pour le moment, en tout cas, il n'y a aucun projet qui s'est monté sous les deux possibilités offertes par Allure, puisque les décrets d'application ne sont toujours pas parus.
Moi, j'ai rencontré, il y a eu dans le cadre des rencontres des groupes d'habitants qui se sont présentés comme coopératives.
Alors, il y a des sociétés coopératives qui existent en tant que telles, des sociétés coopératives qui sont prévues dans le code de la construction et de l'habitation, effectivement, mais pas les nouvelles catégories qui sont offertes par la loi Allure. Mais il y a effectivement, il y a des sociétés coopératives qui sont régies par ce qu'on appelle la loi de 1947 sur les coopératives. Mais là, la coopérative d'habitants, c'est vraiment un modèle qui a été façonné spécifiquement pour l'habitat particulier. Et là, tant que les décrets ne sont pas parus, on ne peut pas constituer réellement des coopératives d'habitants. On est obligé d'utiliser les statuts classiques.
Et qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Quelles sont les différences ?
Alors, les différences, c'est un petit peu...
Un peu technique.
C'est vraiment très technique parce que c'est des tableaux où il y a des avantages et des inconvénients.
Si on essaie de vulgariser ?
Si on essaie de vulgariser, c'est que, en gros, il y a un portage de l'opération qui va permettre une entrée plus facile dans le projet. Paiement d'une redevance pour, dans le cadre des coopératives d'habitants, assumer le financement de l'opération, et un retrait en termes de cession des parts qu'on va vouloir sortir. Mais là, entre l'achat et la vente, il n'y aura pas trop de spéculation, en fait. Donc notamment, il y a un indice qui est l'indice IRL qui permet justement de sortir, d'une coopérative sans exagération sur le montant des parts. Donc ça, c'est un point qui est nouveau. Concernant les sociétés d'autopromotion, là aussi encore, il y a beaucoup de sophistication, mais là, ça sera un petit peu compliqué pour le dire en quelques minutes.
Mais pour être clair, les grandes différences entre l'une et l'autre de ces deux nouveautés apportées par la loi Allure, qu'est-ce que c'est, comment on les distingue?
On est plus on serait plus dans le cadre d'un locatif, et l'autre, on serait plus dans le cadre d'une propriété en fait.
Donc les locatifs pour les coopératives d'habitants.
Voilà, exactement.
Sur les montages financiers qui donc vont accompagner tout le projet, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent au groupe d'habitants. Vous pouvez m'en parler un petit peu?
Alors, la question est de savoir est-ce qu'on a recours à un prêt ou est-ce qu'on autofinance son projet. Dans le groupe qui a abordé la question, il y a des groupes qui se sont montés et qui ont quasiment financé par eux-mêmes les projets, ou alors qui avaient un résiduel très faible. Donc là, les projets se sont montés, les projets ont été finalisés. Après, il peut y avoir ce qu'on appelle des montages plus complexes où il va y avoir un bailleur social qui va intégrer en fait ces projets-là pour porter plus facilement l'opération, notamment sur l'acquisition des parties des communs, ce qu'on appelle des communs, où là, le bailleur social va essayer de trouver, même si ce n'est pas dans le cadre de ses statuts, des modalités de financement qui vont lui permettre d'acquérir, en lieu et place des groupes en fait et des membres du groupe, et donc ça va permettre naturellement de diminuer le coût de l'opération. Après se pose aussi la problématique des fonds, par exemple notamment sur les garanties, puisque c'est une évolution de la loi Allure, c'est-à-dire que dans les cas des sociétés d'autopromotion, il y a une obligation pour dans ce cadre-là d'avoir une garantie financière d'achèvement en fait. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur le montant, mais elle risque d'être peut-être élevée. Et donc là, le bailleur social dispose en fait de toutes les garanties, même si ça a été discuté. Et donc c'est un moyen facile, en passant à travers un bailleur social, de financer peut-être plus facilement une opération d'une société d'autopromotion et d'habitat participatif.
Voilà. Et donc sur le financement des parties communes, comment ça se passe exactement? Parce que donc le principe d'un habitat participatif, c'est qu'il y a les logements privés, mais il y a aussi toutes ces parties communes qu'on va partager.
Dans les ateliers, justement, on a abordé. Alors c'est vraiment, il y a tout cas de figure. Ça peut être très bien un mode très technique par rapport à des tantièmes, comme on a dans le cadre de copropriété, ou alors ça peut être un mode égalitaire, c'est-à-dire on fait une fraction en fonction du nombre de familles, et on va dire, s'il y a 8 familles, on divise en 8 le coût de construction. Là, il y a vraiment une liberté, je dirais, contractuelle pour justement faire ce financement.
Merci, Marc-Ganilcy.
Merci.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec...